France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Voilà un Premier ministre qui veut renforcer le pouvoir des territoires. Mais comment Sébastien Lecornu souhaite-t-il redéfinir ce pouvoir local? Ça devrait faire l'objet d'un projet de loi en décembre, ce que Matignon appelle un nouvel acte de décentralisation. Eh bien, c'est le thème ce soir d'une semaine en France pour un pouvoir plus proche des citoyens, plus adapté aussi aux réalités du terrain. Eh bien, ce nouvel acte de décentralisation, il passera par une clarification de partage de compétences entre l'État et les collectivités locales. On verra bien ce soir ce que cela signifie. Et puis, reportage également avec le maire d'une commune rurale de la Nièvre, qui reste dubitatif, vous l'entendrez, tant il a été échaudé par des décisions nationales qu'il estime inadaptées à sa commune. Ce sera le micro ouvert de Sandrine Houdin. Décentralisation, nouvelle étape en vue. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier invité. Bonsoir Jérôme Durin.
Bonsoir.
Vous êtes le nouvel homme fort de la région Bourgogne-Franche-Comté, président socialiste depuis un mois. Sébastien Lecornu souhaite donc un nouvel acte de décentralisation pour mieux répartir les compétences entre l'État et les collectivités. Il veut, dit-il, renforcer le pouvoir local. Qu'attendez-vous en Bourgogne, à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté? Qu'attendez-vous de ce projet?
Bah, qu'il aille au bout de cette promesse, parce que l'idée du Premier ministre, c'est de dire il faut un seul responsable par politique publique. Donc on ne peut que souscrire à ce point de vue. Lui dit il faut un ministre, un préfet, un élu, un seul. Donc si l'idée est de supprimer les doublons, c'est une demande des régions de longue date. Et effectivement, nous, on a envie d'être en pleine responsabilité sur un certain nombre de compétences qui sont le développement économique, l'orientation, la gestion des fonds européens. Mais ça ne fonctionne que si, en face, on a les recettes correspondantes. Une collectivité comme celle que je dirige, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle a moins de 11% d'autonomie fiscale. C'est-à-dire que tout le reste, ce sont des dotations de l'État. Et année après année, il faut qu'on attende que l'État nous donne ce dont on a besoin pour vivre. Donc, si on veut vraiment décentraliser, il faut des compétences et puis il faut en face des recettes.
C'est-à-dire, si je vous entends, vous avez quelques doutes concernant les prélèvements de l'État. Vous redoutez que l'on vous reprenne d'un côté ce que l'État vous accordera de l'autre?
Ben, malheureusement, le Lecornu décentralisateur, c'est aussi un Lecornu qui serre les cordons de la bourse de l'autre côté. Et son projet de budget n'est pas de bon augure. On nous avait demandé l'année dernière aux collectivités locales 2,2 milliards. Cette année, la facture va être de 4,6 milliards. Et encore, si on va chercher un peu loin, ça peut être un peu plus, peut-être 6 milliards. Comment peut-on faire plus au plan local si on n'a pas les recettes en face? Donc là, il y a quand même une contradiction. Et puis moi, je pense que au fond, il faut que l'État sache ce qu'il souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un État qui est un État planificateur, un État qui est un État providence qui continue à tout faire, ou un État qui donne vraiment le moyen aux collectivités locales de travailler sereinement sur un certain nombre de compétences? J'ai un gros sujet en ce moment qui concerne le rail. Je suis obligé, parce que l'État ne le fait pas, d'engager des frais régionaux sur le patrimoine de l'État que sont les rails. Il y a une ligne des Hirondelles dans le Jura qui est menacée. Nous venons de voter hier 12 millions d'euros. Si la région ne le fait pas, alors même que c'est le patrimoine de l'État, les trains s'arrêtent de circuler. C'est un exemple très concret des clarifications que nous attendons.
Vous parlez du rail, on pourrait aussi parler de la transition numérique, qui illustre d'ailleurs la fracture entre l'État et les territoires. Quelle liberté nouvelle aimeriez-vous en Bourgogne-Franche-Comté pour en finir avec les déserts numériques qui sont un frein au développement économique des régions?
Alors, on a dans le champ numérique des compétences. On s'occupe, par exemple, de tout ce qui est cybersécurité avec les CSIRT. On a des réseaux de fibres qu'on développe. Donc, c'est un champ sur lequel on s'investit déjà. Je crois vraiment que l'essentiel pour nous, c'est surtout d'avoir le champ libre sur les plans qui sont au cœur de nos compétences. Vraiment, c'est l'économie, c'est l'orientation, c'est la gestion des fonds européens, c'est aussi la transition énergétique sur laquelle on est vraiment en capacité de faire plus et mieux. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu étonnantes, je pense aux lycées par exemple. Les lycées, vous savez comment ça fonctionne, c'est la même chose d'ailleurs pour les collèges avec les départements. C'est une compétence de la région pour le bâtiment un certain nombre d'agents. Toute la dimension pédagogique, toute la dimension de gestion est confiée à l'État. Quand on veut, par exemple, faire du local et du bio dans l'alimentation, eh ben, c'est pas si simple, parce qu'il y a une main gauche qui est celle de l'État, une main droite qui est celle de la région. Là, on peut utilement simplifier.
Pour cet acte nouveau de décentralisation, Sébastien Lecornu attend vos propositions, comme celles d'ailleurs de tous les présidents de région et de département, avant la fin du mois. Quelles seront vos propositions les plus emblématiques? Il nous reste 45 secondes pour tout vous dire, Jérôme Durin.
Écoutez, je les ai décrites, hein, c'est suppression des doublons, c'est des compétences pleines et entières sur quelques sujets que j'ai évoqués, économie, orientation, fonds européens, et puis c'est qu'on puisse continuer éventuellement à expérimenter, parce qu'il y a la place, dans une forme de différenciation, de laisser, région par région, des initiatives dans des champs nouveaux, et je crois qu'on est capable de faire preuve de créativité, et on le fera si on nous en donne les moyens.
Eh bien, merci d'être venu le dire ce soir en direct sur Inter. Merci beaucoup de ce témoignage. Jérôme Durin, président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et bon début de soirée. Plus de pouvoir donc aux collectivités. Ça s'adresse aux maires aussi notamment. Mais vous allez l'entendre dans ce reportage. Voilà un maire rural qui reste bien dubitatif. Il s'appelle Gilles Noël. Il est maire de Varzy, commune de la Nièvre, 1200 habitants. Il est très remonté contre ce qu'il appelle les injonctions parisiennes, trop souvent à côté de la plaque. Sandrine Houdin a poussé c'est la porte de sa mairie, micro ouvert.
Monsieur le maire, à peine dans son bureau, Gilles Noël y va franco.
Nous, on leur a sorti à plusieurs reprises le cul des ronces.
C'est quoi le cul des ronces?
Le cul des ronces, c'est quand ça pique, madame. C'est un vrai merdier en France, ça c'est clair. Des règlements qui nous arrivent depuis Paris avec les égos des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que le monde rural, c'est pas celui de la métropole et qu'on a besoin de discernement, que ça soit taillé sur mesure. On peut pas faire la même chose quand vous êtes en région parisienne ou quand vous êtes au fin fond de la Nièvre.
Un exemple.
Bah, ici, c'est simple, hein, inégalité d'accès aux soins. Le dernier exemple que moi j'ai vécu ici, c'est l'incapacité d'une dame à pouvoir se faire réparer la hanche. Et elle se retrouve dans un fauteuil roulant. Tout simplement parce qu'elle était prise dans ce système qui nous vient à Paris, où il faut d'abord aller voir le médecin, il faut ensuite avoir un scanner, et puis quand vous n'avez pas le scanner et que le médecin n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Un bordel, quoi.
Elle habite où, cette dame?
La dame, elle habite à quelques minutes d'ici, là. On peut même y aller si ça vous intéresse. Hein. On peut aller la voir.
Ok. Hop. En moins de 3 minutes, nous y sommes.
Je vais voir si elle est là. Je vais taper au carreau, bougez pas. Impeccable.
Bonjour madame, on vous dérange? Il m'a proposé de passer vous voir 5 minutes.
Dès le sujet énoncé, la retraitée nous fait signe de rentrer.
Je ferme? Oui. Votre prénom, je l'ai même pas, madame.
Valérie.
Comment?
Valérie.
Je peux m'asseoir à côté de vous?
Bah oui.
Vous êtes trois chiens,
là. Lala, Toby et Croquito.
Quel serait votre coup de gueule à vous, madame?
4 semaines pour arriver à être soignée d'une chute. Pas de lit, pas de médecin. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Parce que c'est la misère, quoi. C'est le règne de la démerde. On n'est pas du tout pris en charge.
Vous êtes isolée?
Bah oui. Vous vous rendez compte? Ben, ils en ont rien à foutre.
Ici, à la campagne, quand vous avez un souci de santé, vous n'êtes pas traité de la même façon qu'en ville. Ben, on en crève de tout ça. Tout est compliqué, y compris à l'école.
Qu'est-ce qui se passe?
Pendant la Covid, beaucoup d'emmerdes.
Allez, on y va, on laisse madame. Madame, merci.
Je vous en prie.
Salut, salut.
École, Covid, État, explication.
Pendant la Covid, nous, on a subi tous les affres de ces Parisiens qui pondait un certain nombre de directives. Il a fallu se dépatouiller pour que les gamins puissent avoir un détecteur de CO2, avoir des produits X pour se laver les mains.
Mais c'est partout, ça.
Peut-être partout, sauf que chez nous, il a fallu trouver des gens, des bénévoles, il a fallu qu'on trouve des sous pour acheter ces trucs-là au dernier moment. Dans une école en ville, il y a du personnel. Ici, il faut se débrouiller. Hein. On se débrouille, on y va, nous, les élus aussi, hein, pour donner un coup de main du soir au lendemain. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait. Bah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est Bibi, hein.
Typique des directives qui viennent de Paris.
Bah oui, des crânes d'œufs qui nous ont envoyé ça le dimanche soir, valable dès le lundi matin. Donc, des crânes d'œufs. Point à la ligne.
Alors moi, je voudrais questionner vos administrés.
Ah bon, on peut aller au bar.
Et c'est reparti.
Freddy, je t'ai vu, salut.
On entre.
Salut, toi.
Ah. Ouais.
T'as fini ta maison ou pas encore?
Donc, on va pouvoir boire un coup.
Pardon, messieurs, passez. Parce que monsieur le maire, il a soif, apparemment il s'est déjà installé, hein. Moi je suis même pas assis.
Un café ristretto.
Gilles Noël qui ne s'arrête plus.
Je parle pas des 80 km/h, je parle pas des règles d'urbanisme, tout ce qui nous casse les pieds, les normes qui changent tous les 4 matins, qui nous coûtent de plus en plus cher. D'un point de vue intellectuel, on peut le comprendre, mais d'un point de vue réalité factuelle et quotidienne, bah, c'est exaspérant.
Et voilà, monsieur le maire.
Merci, mon garçon.
Le patron de l'établissement.
Vous, monsieur, pardonnez-moi. Ce que vient de dire le maire, là, vous diriez quoi?
On est des petites fourmis dirigées par des grands frelons. Enfin, c'est ça le problème. Donc, ils nous bouffent. On est bouffés.
Vous allez dans le sens du maire, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on vous impose des choses.
Oui, on n'a pas le choix. On n'a aucun pouvoir.
Je vous laisse, il y a des clients. Merci.
Conclusion du maire de Varzy.
Il nous cause depuis Matignon, un très bel hôtel, mais on a besoin, nous, de voir la confiance donnée aux élus ruraux.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en proximité avec nos sous-préfets et notre préfet, les choses se réajustent très facilement, mais que les technocrates parisiens, eux, ont un regard qui ne fait pas la différence entre une ville et la campagne. On a bien conscience, nous, d'être des petits maires pour ces Parisiens. Mais nous, on est maires comme les autres.
Vous iriez jusqu'à dire que Paris vous méprise, quelque part?
Paris nous regarde d'un peu haut. D'ailleurs, nous, ils nous qualifient de périphériques. On habite en périphérie. On est des campagnards. Eh bien, tant pis. Ou tant mieux.
Hop. Eh bien, 21-20, s'il te plaît.
Voilà, pour le café, l'addition, s'il vous plaît. Voilà pour ce reportage micro ouvert de Sandrine Houdin à Varzy, dans la Nièvre. Et bonsoir, François Kraus.
Bonsoir.
Vous l'avez entendu dans ce reportage, hein, et ça corrobore cette enquête de l'IFOP. Je rappelle que vous êtes le directeur du pôle politique actualité à l'IFOP et vous venez de publier une étude sur les communes et les intercommunalités comme actrices essentielles de la cohésion sociale et territoriale. Dans ce reportage, on entend cette France rurale, on dit aussi périurbaine, même si ça ne plaît pas à tout le monde, qui exprime un fort sentiment d'abandon. Ça confirme votre enquête IFOP?
Oui, et puis ça confirme les thèses notamment de certains géographes comme Christophe Guilly sur la France périphérique, ce sentiment d'être délaissé par les pouvoirs publics et qui généralement se traduit par des votes contestataires depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Dans tout un ensemble de territoires périurbains ou ruraux. Et on a une fracture du territoire sur le plan sociologique et politique qui est de plus en plus marquée entre des métropoles plutôt aisées, progressistes et intégrées à l'économie mondiale et des territoires beaucoup plus pauvres, plus âgés, avec beaucoup plus de difficultés d'accès à tout un ensemble de services et qui ont une attente très forte à l'égard des pouvoirs publics, ce qui pose problème à l'heure de la réduction des budgets.
Des budgets, évidemment. On apprend aussi dans votre enquête IFOP que les Français font plus confiance aux élus locaux, aux élus locaux que nationaux pour appréhender leur quotidien. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Ça fait longtemps, comme vous le savez, que le maire est l'élu préféré des Français, mais qu'on est aussi aujourd'hui dans un niveau de mécontentement à l'égard du pouvoir national qui est extrêmement fort et qui tient à sa paralysie, la paralysie de l'échelon gouvernemental et parlementaire depuis un an et demi. Et c'est pas quand un échelon ne fonctionne pas, on a tendance à se réfugier sur un autre échelon qui lui apparaît beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche des besoins du quotidien des habitants. Et ça se traduit par une défiance forte à l'égard de l'État et une revalorisation du rôle politique des collectivités locales, que ce soit à l'échelle des régions, des intercos ou des mairies.
Et au final, les citoyens restent très attachés aux services publics de proximité.
Oui, quand on leur demande par exemple si ils approuvent les coupes budgétaires imposées aux collectivités locales dans le budget initial, celui qui était en cours avant d'être discuté et annoncé par le Cornu, on a les deux tiers des Français qui désapprouvent ces mesures budgétaires d'environ 5 milliards imposés aux collectivités, et en particulier dans ces milieux ruraux, périurbains dont on parlait. Et ils veulent surtout que ces réductions affectent les dépenses de l'État, qui apparaît de plus en plus comme un État obèse, beaucoup trop dépensier, et qu'il épargne au contraire les dépenses des collectivités locales et les dépenses aussi sociales qui sont, comme vous le savez, au cœur du débat avec la question des retraites.
Et puis l'FSS, évidemment, qui va arriver à l'Assemblée dans peu de temps. Les services publics de proximité, on va les rappeler, hein, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles, les trains, ce sont des secteurs qui sont déjà en souffrance.
Oui, et les Français en ont parfaitement conscience. Hein, quand on compare les résultats de cette enquête à une enquête qu'on avait faite il y a une dizaine d'années, vos enquêtés tout à l'heure par vos journalistes mettaient en avant la dégradation du système de santé. C'est quelque chose qui est partagé par environ les deux tiers des habitants. Ce sentiment, que ce soit les services de santé ordinaires de type médecin généraliste, mais aussi les infrastructures de santé d'urgence de type maternité, services d'urgence des hôpitaux.
Merci.
Et ça, c'est consensuel. Et c'est un phénomène qui est très lourd, très profond et transpartisan et transgénérationnel. Cette question du système de santé, elle est au cœur de l'impression d'une dégradation des services publics et de la qualité de vie à la française.
Merci beaucoup. François Crozes, directeur du pôle politique actualité à l'IFOP. Et je renvoie donc à votre étude disponible sur le site ifop.com. Vous écoutez Une semaine en France, à la technique ce soir, Élise Christophe, Florian de Rimini et Loïc Frapsos. Question ce soir sur le futur partage de pouvoir entre l'État et les territoires. C'est le projet de Sébastien Lecornu, on en reparle après cette chanson de Curtis Harding. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Can't be blind, l'amour vrai ne peut pas être aveugle. C'est de la soul américaine de Curtis Harding, extrait de son dernier album, et c'est le choix de Djoubaka.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, on parle ce soir de décentralisation. Bonsoir Géraldine Chevrier.
Bonsoir.
Professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sébastien Lecornu donc propose un nouvel acte de décentralisation dès décembre prochain. Ça devrait passer par un projet de loi. Il veut une clarification sur le partage de compétences entre l'État et les collectivités. Qu'est-ce qui n'est pas clair aujourd'hui dans ce partage de compétences ?
Bah, c'est celui qui a le moins intéressé jusqu'à maintenant, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur le partage de compétences entre les collectivités territoriales. Et l'État a accusé les collectivités de dépenser beaucoup
de gabegie
parce qu'il y aurait des redondances. Or, on commence à se rendre compte, en analysant de rapport en rapport, que le problème est plutôt la répartition de compétences entre l'État et les collectivités. Je vous donne quelques exemples. Les régions ont la possibilité d'aider les entreprises pour créer et étendre une activité économique. Mais l'État peut aussi aider les entreprises. Et il le fait beaucoup moins bien que les régions. Et on pourrait très bien, dans ce cas-là, régionaliser BPI France. L'orientation. Vous avez une loi de 2018 qui nous dit que ce sont les régions qui vont pouvoir informer les lycéens sur les métiers. Mais vous avez toujours le NISEP à côté, et qui doublonne. Mais vous avez pire, les régions qui ont aujourd'hui finalement la responsabilité de l'aménagement du territoire, mais vous avez une agence, qui est l'ANCT, et qui va non seulement doublonner, mais compliquer la tâche, parce que même pour les communes, on va avoir un éclatement des dispositifs avec les cœurs de ville, les centres-villes, les CRTE. Puis vous avez des compétences qui sont octroyées partiellement. Natura 2000, on va accorder une partie du compétence à la région, mais finalement, c'est l'État qui va rapporter à l'Union européenne ce qui s'est passé. Mmh. Donc en fait, il n'a pas su, l'État ne s'est pas lâché. La compétence. On a trop de doublons et c'est là que se situe la dépense publique et la mauvaise coordination, donc la mauvaise efficacité de l'action
publique. Mais il y a un vide juridique alors, ou c'est du laisser-faire, du laisser-aller qui explique cette gabegie?
Alors, il y a deux choses. Il y a une culture administrative étatique qui revient toujours à l'administration centrale. Vous pouvez adopter toutes les lois de décentralisation. Si vous n'avez pas de moyens pour empêcher la recentralisation, ça ne servira à rien. Et donc, il faut très probablement passer par une révision de la Constitution. Mais il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, on n'a pas de majorité pour ça.
Non.
Alors, moi, j'ai proposé, et c'est peut-être là que vous m'orientez...
Oui, vous proposez une loi organique pour repenser, justement, pour modifier les pouvoirs des collectivités. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi organique?
Alors, on n'a pas de définition. Il existe une liberté qui protège les collectivités de l'incursion de l'État dans leurs affaires.
Ça, c'est dans la Constitution.
C'est dans la Constitution. C'est la libre administration. On a seulement un souci, c'est que la libre administration, elle a été créée en 1946 et en 1958, alors que la décentralisation n'existait pas. Alors, si ça, c'est un principe protecteur, je ne sais plus ce qu'est un principe protecteur. Donc, en fait, il fallait trouver un moyen de créer la protection constitutionnelle. Et l'article 34 de la Constitution nous dit, bon, le législateur va fixer les principes fondamentaux de la libre administration. Et à la fin de l'article 34, il renvoie aux lois organiques qui sont faites pour préciser la Constitution. Donc moi, ce que je propose, c'est que toutes les garanties contre la recentralisation, on les pose dans cette loi organique. C'est-à-dire que, par exemple, on donne le pouvoir de décision aux collectivités. La Constitution dit déjà que les collectivités, elles ont vocation à prendre les décisions dans l'exercice de leurs compétences. Or, un décret du Premier ministre va fixer totalement l'exercice de la compétence et il peut intervenir à n'importe quel moment. On peut avoir des collectivités qui ont déjà pris des décisions dans l'exercice de leurs compétences et à n'importe quel moment, il va intervenir. Alors moi, je dis dans une loi organique que soit la loi renvoie au décret du Premier ministre et il peut organiser l'action des collectivités, soit elle ne renvoie pas au Premier ministre, soit elle renvoie aux collectivités, soit elle est silencieuse ou elle renvoie, il ne faut pas intervenir. Et j'interviens aussi sur le domaine financier, parce que vous savez très bien que les finances locales, c'est aujourd'hui un problème. On a besoin d'une bonne gestion publique. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, les services publics nationaux sont en souffrance, la justice, etc. Donc on a besoin qu'au moins localement, il y ait ce tampon démocratique, cette impression qu'on est bien. Mais sauf qu'aujourd'hui, on rogne les subventions. Donc il faut trouver des moyens d'empêcher c'est d'aller trop loin et de dénaturer la libre administration.
Et ça fait l'objet de vos 8 mesures de la loi organique. Loi organique, ça veut dire qu'elle précise et qu'elle complète les articles de la Constitution, mais elle doit être soumise tout de même obligatoirement au Conseil constitutionnel.
Voilà,
ça peut être
achoppé
peut-être
Le Conseil constitutionnel, depuis des années, explique qu'il ne peut pas faire grand-chose de ce principe de libre administration. C'est lui qui l'a érigé. Parce qu'il aurait pu dire, oui, bah, la libre administration, ça ne veut rien dire. Mais en 79, il a dit, c'est un principe constitutionnel qui doit protéger les collectivités. Donc, il est en demande de précision. Et puisque cet article 34, qui évoque la libre administration, renvoie à la loi organique, il est assez logique d'utiliser cette loi organique pour préciser cette libre administration.
Parce qu'il faut rappeler à quel point la Constitution est floue concernant ce qu'on appelle l'autonomie financière des territoires.
Alors, si vous parlez d'autonomie financière, elle est à la fois floue et précise. Il y a deux choses. Il ne faut pas parler que d'autonomie financière. L'autonomie financière, c'est finalement, est-ce que j'ai des ressources autonomes ? Alors oui, c'est un problème. La révision constitutionnelle avait annoncé que les collectivités auraient un certain taux de ressources autonomes par rapport à la totalité, et au final, ça n'a pas été fait. Mais la question aujourd'hui des collectivités, c'est est-ce que j'ai assez de financement et est-ce qu'ils sont prévisibles ? Et là, on a la Constitution qui est extrêmement précise, mais meurtrière. Elle nous dit que quand l'État transfère une compétence en 2000, en 2025, il continuera de donner le même montant que ce qu'il dépensait en 1999. 25 ans plus tard, ça n'a plus de sens.
Ça a changé. Géraldine Chevrier, vous restez avec nous, le temps de me tourner vers Corinne Audouin, que je vous présente. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec vous, on va remonter le temps avec une sorte de balade à travers les archives de l'INA. Et on commence par un livre clé quand on parle de décentralisation.
Paris et le désert français, ça vous dit sans doute quelque chose. Le livre du géographe Jean-François Gravier, paru en 47, réédité plusieurs fois. Alors c'est un réquisitoire implacable contre le déséquilibre entre la province et la capitale, un système hérité de l'ancien régime, perpétué depuis. On le voit par exemple dans le schéma du chemin de fer français. Toute personne qui voyage par la SNCF s'en rend compte. Jean-François Gravier, interrogé en 1963 sur la chaîne de la radiodiffusion française.
L'économie et les hommes.
Le gros problème français, c'est le problème de la saturation urbaine de Paris et du destin de Paris par rapport à celui de la France et à celui de l'Europe. Le drame français, c'est d'avoir un seul centre nerveux qui est parvenu, grâce à une structure extrêmement centralisée, à capter une part excessive des forces vives du pays.
Alors très tôt, le géographe prône déjà la création de 16 grandes régions. Il rêve de faire de Poitiers et Aix-en-Provence les Oxford et Cambridge français. Alors certains appellent ce livre la Bible de la décentralisation. D'autres historiens sont plus dubitatifs. A-t-elle influencé les politiques publiques ? En tout cas, en 58, en effet, les collectivités territoriales entrent dans la Constitution, on vient d'en parler. Dans les années 60, on invite les Français à se décentraliser dans la chlorophylle. En mars 60, le général de Gaulle annonce un référendum sur la réforme du Sénat et la création des régions.
Il est clair qu'il y aura là un changement très important dans l'organisation de nos pouvoirs publics. Il est clair que de ce fait, c'est au peuple français tout entier, c'est-à-dire à vous, qu'il appartient d'en décider. Je compte donc vous le demander. En faisant appel directement et une fois de plus à la raison de notre pays, quant à moi, je ne saurais douter de la suite.
La suite, justement, Éric, c'est bien l'échec du référendum, la démission du général de Gaulle qui l'avait mise dans la balance. Les Français étaient-ils vraiment opposés à la création de régions ? En fait, ils ont surtout voté pour ou contre le président de la République.
Et finalement, c'est avec l'arrivée de la gauche en 81 que les régions deviennent des collectivités territoriales à part entière.
Oui, l'artisan de cet acte 1, c'est le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, qui ferraille ici contre la droite à l'Assemblée nationale.
Quand la loi sera appliquée, les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés ? Ces textes sont irréversibles, car quand les élus, quand ils ont goûté des libertés que nous leur offrons, plus personne ne pourra leur faire renoncer à ces libertés, et vous n'oserez plus le demander.
Alors voilà, on est quelques années après, c'est vrai, la décentralisation est désormais portée par la gauche et par la droite. L'acte 2 de la décentralisation, c'est sous le gouvernement Raffarin, avec de nouveaux transferts de compétences, le principe de l'autonomie financière. En 2015, sous la présidence Hollande, la France passe de 22 à 13 régions, tout en gardant les départements, le fameux millefeuille français qu'on adore. Et 10 ans après, certaines de ces nouvelles régions cherchent toujours, c'est peu de le dire, leur identité.
Mais... les bois sont les plus festifs,
le Grand Est.
Mais qui a les forêts les plus fournies,
le Grand Est.
Mais dis-moi, qui a les cathédrales les plus sexy,
le Grand Est.
La région la plus européenne de la pays. C'est qui, oh, qui a des ce machin qui contient des Alsaciens, des Champardonnais, des Lorrains.
Voilà, ça c'est la région Grand Est qui fait sa pub sur ses cathédrales les plus sexy, et c'était en 2024.
Avec la voix de Philippe Catherine, me semble-t-il. Non, on n'est pas certain, mais ça y ressemble. Oui, oui, c'était une parodie, effectivement. Merci beaucoup, Corinne Audouin. Géraldine Chavrier, je rappelle que vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Est-ce que les grandes régions mises en place il y a 10 ans n'ont pas fini par éloigner le citoyen des décisions?
Ah, bien sûr, oui. L'avantage de la décentralisation, c'est de rapprocher la décision du citoyen. Les grandes régions, elles ont non seulement une dimension aujourd'hui terriblement inefficace en matière de gestion publique, mais surtout, elles ont été fusionnées de force sans aucune considération à l'égard de l'identité. Vous avez dit, elles cherchent leur identité. Bah, elles les cherchent peut-être aussi parce qu'on leur enlève. Donc en fait, les régions aujourd'hui, les grandes régions, on devrait certainement leur permettre de faire un choix. La possibilité de revenir en arrière. Mais si on revient en arrière comme ça, de façon sèche, c'est de l'argent perdu, on a autre chose à faire. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est que les départements qui se sentent mal dans la grande région et qui ont privé des individus de leur identité, puissent décider de se réunir et de devenir une collectivité unique, à la fois départementale et régionale. On simplifie. Il n'y aurait plus de région. Il y aurait juste commune, intercommunalité et collectivité unique sur le territoire de l'ancienne région.
Ça rend le millefeuille plus digeste.
Plus digeste. Et surtout, ça remet de l'identité, puisque c'est le choix de la collectivité locale en fonction de ce qui est ressenti comme une identité locale.
Il nous reste 10 secondes, je crois que vous avez envoyé vos 8 mesures de la loi organique à la fois à François Bayrou d'abord, puis Sébastien Lecornu ensuite. Quel retour en avez-vous eu?
François Bayrou considérait que la décentralisation était infaisable aujourd'hui alors qu'elle est très transpartisane, et Lecornu, c'est un peu tôt pour répondre.
Je vous comprends bien, merci beaucoup. Merci de votre expertise, Géraldine Chavrier, professeure de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À suivre, le multiplex des régions, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous ferons étape à Nîmes, Orléans et dans le sud de la Charente. Une semaine en France, c'est aussi une équipe. Juliette Gouff à la réalisation, Aurore Mansip à la préparation du 18-20 et la rédaction en chef avec Frédéric Barrère. 18h52.
Je me déplace tout doucement et ça m'arrange comme une limace. Sans trop forcer, je me balance de gauche à droite au ras. Ralenti, le monde est si joli. Au ralenti, j'ai tout le temps d'y voir. Du jour au crépuscule, tous ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. Plus le temps passe et plus j'apaise ma cadence. Le ciel m'embrasse et je me noie dans ses nuances. Un oiseau passe. Je crois que le temps que j'arrive à faire un pas de plus, il aura déjà fait son nid de branchages et de mousse. Mars a brillé, on passe et j'ai posé 6 fois le pied. Mais j'ai vu tant de choses du jour au crépuscule. Dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux, que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. force de ralentir le pas. Des araignées ont tissé tout autour de moi, mais ça me va, je crois. Je me laisse guider de l'hiver à l'été, au gré des choses à regarder. J'irai jusqu'au bout de ma vie.
Il s'appelle Voyou, avec son titre Les Royaumes Minuscules.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs, à présent, avec l'indispensable concours des radios du réseau. Ici, nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Garlozère, ici La Rochelle et ici Orléans, Tony Cellier, Mélanie Domange, Camille Huppe-Noir. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On va commencer à Nîmes, Tony Cellier. Voilà plusieurs cas de tuberculose qui ont été détectés au lycée d'Alzon, d'où ce grand dépistage qui concerne 900 élèves, professeurs et autres personnels.
Oui, au lycée, mais aussi à l'Institut supérieur d'Alzon. Ce sont deux établissements privés catholiques. Alors, cette campagne de tests, ça se passe dans un camion médicalisé, tout simplement. Laboratoire qui s'est déplacé jusque dans la cour du lycée. Test rapide, radio des poumons. Résultat attendu dans les 2 à 3 prochains jours maintenant. Mais ensuite, il faudra quand même procéder dans 2 mois à ce qu'on appelle un tuber test. C'est une prise de sang pour confirmer ou non de nouveaux cas de tuberculose. Pour l'instant, 400 radios environ ont dû être réalisées en 2 jours. Passer ce test n'est pas obligatoire. En cas de besoin, de nouvelles radios seront possibles au retour des vacances scolaires. Pour l'instant, 5 cas confirmés. Le premier est diagnostiqué au mois de juin. En fait, un étudiant qui est revenu d'un séjour en Afrique et qui n'était donc pas vacciné au moment de partir, ça pourrait bien être le même scénario pour les autres cas, mais ça reste à confirmer, ce qui éliminerait une contagion locale, ici donc, à Nîmes. Il faut rappeler que la tuberculose n'a jamais été totalement éradiquée dans le monde. En France, plusieurs milliers de cas chaque année, le plus souvent quand même dans des contextes de précarité ou de promiscuité. Maladie qui peut être mortelle, mais guérissable dans la grande majorité des situations.
Tony Cellier, ici, Gare Lozère. Et nous partons dans le sud Charente. Mélanie Domange, voilà un nouveau chemin rural en pierre. Il a été construit à l'ancienne, il vient d'être inauguré. C'est un chemin de pierre censé protéger 200 hectares de forêt dans un secteur qui a déjà été touché par les incendies.
Oui, même sérieusement touché il y a 2 mois du côté de Bardenac, ce sont 230 hectares qui sont détruits. Il faut 2 jours pour arrêter le feu. Alors ce chemin composé de petits morceaux de calcaire entouré de fossés, eh bien élus et habitants l'attendaient avec impatience. Une piste forestière d'1,7 km sur 10 mètres de large, ça peut sembler peu, mais pourtant c'est déjà une aide importante pour les pompiers. Ils vont pouvoir accéder plus facilement à l'intérieur des massifs. Ça permet également de créer des îlots, des parcelles et éviter que les flammes ne se propagent trop vite.
Oui. Éviter que les flammes ne se propagent trop vite, cela dit Mélanie, ce chemin de pierre n'est pourtant pas un pare-feu, il ne peut pas contenir un incendie.
Eh oui, non, il ne peut pas parce qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus large, qu'il fasse plusieurs centaines de mètres. Pourquoi ? Parce qu'il existe ce que les pompiers appellent les sottes de feu. Il y en a eu justement l'été dernier lors de l'incendie de Bardenac. Des flammes ont littéralement parcouru en un instant ou presque 1 km. Vous l'avez compris Eric, ce nouveau chemin de pierre est donc un premier pas important pour éviter la propagation des incendies, mais pas forcément suffisant.
Mélanie Domange, ici La Rochelle. Dans le Loiret, à présent, Camille Huppe-Noir, nous partons en pleine Beauce, c'est le grenier de la France, plus connu pour ses champs de céréales à perte de vue que pour ses forêts. Eh bien, voilà une association qui s'est malgré tout lancée dans un inventaire des arbres de ce territoire.
Dans la commune d'Ingré, aux portes de la Beauce, une poignée d'amoureux de la nature a fondé cette association avec l'objectif de recenser les espèces d'arbres de 48 communes. Imaginez 100 000 hectares à cartographier pour la bonne cause. Car oui, vous avez raison, les arbres sont rares sur ces terres plates et agricoles, mais ils sont essentiels dans un contexte de réchauffement climatique. L'association veut repérer ceux qui résistent le mieux aux chaleurs et aux grands vents qui peuvent balayer la Beauce. C'est un travail long avec les images satellites. D'abord, on cherche des zones zones où les arbres ont un certain volume, où des arbres dits champêtres sont isolés dans les champs. Ensuite, ça se passe sur le terrain pour les identifier précisément, taille, envergure, essence. Déjà une centaine de fiches remplies, surtout pour des noyers, mais aussi des érables, des chênes. Un obstacle cependant, certains arbres remarquables se trouvent sur des propriétés privées. L'association va demander l'autorisation aux habitants concernés pour se rendre sur leur terrain. Et d'ici 2028, pour un budget de 100 000 euros environ, l'inventaire des arbres sera prêt. Une manière de valoriser ce patrimoine et, en récoltant les graines des arbres les plus résilients, de développer les bois et les forêts en Beauce.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos amis du réseau ICI. À suivre le journal de 19h de Céline Asselot. Et puis à 19h20, ce sera le téléphone sonne. On va évoquer ce soir le harcèlement des ados en milieu scolaire. J'attends vos questions, vos témoignages aussi. 01 45 24 7000 ou bien via l'appli Radio France. Le téléphone sonne et il va sonner jusqu'à 20h.